Valérie, quelle semaine, des rebondissements, puisque le processus est enclenché à Washington, le processus de destitution du président. Semaine difficile pour Donald Trump, alors qu'on a entendu les premiers témoignages devant les caméras.
Oui, puis on avait commencé mercredi avec deux témoins très crédibles, des anciens démocrates de carrière qui étaient vraiment, là, c'était difficile de les attaquer au niveau de ce qu'ils ont fait dans leur mandat et du fait qu'ils étaient partisans ou non. Mais c'est vraiment vendredi où il y a eu des feux d'artifice parce que c'était Marie Yovanovitch, l'ancienne ambassadrice en Ukraine. Et elle, pourquoi c'est important aujourd'hui? C'est que avant ces fameux appels avec le président ukrainien en juillet dernier, elle était en Ukraine avant ça, et c'est Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel du président, qui aurait fait une campagne de salissage, vraiment, pour qu'elle perde son poste en Ukraine.
Et quelle controverse, alors que le président des États-Unis envoie un tweet discriminatoire à l'endroit de Mme Yovanovitch, qui est en train de témoigner en direct devant le Congrès américain.
Vous avez tout à fait raison. Adam Schiff qui dit aussi, qui arrête à un moment donné ce qui se passait en disant « Écoutez, en ce moment, madame, saviez-vous que M. Trump est en train de vous attaquer sur Twitter? » Il a lu le tweet devant elle.
Et
bien
sûr,
elle s'est dit intimidée. Elle a dit « Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président, mais je le prends comme une intimidation. »
Et tout à fait.
Parce qu'il a dit, partout où Marie Yovanovitch est allée, ça a mal tourné. Elle a commencé en Somalie. Comment ça s'est-il passé? Alors, il a continué et en disant, bien sûr, que c'est le droit du président de choisir qui allait représenter les États-Unis à l'étranger. Mais quand même, c'était assez particulier parce que tous les républicains qui étaient là, au témoignage, étaient toujours en train de lancer un peu des fleurs à Mme Yovanovitch. Je ne sais pas ce qu'on essayait d'attaquer, hein, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté. Alors que le président fasse ça, c'était très, très ordinaire.
Et que pensez, Valérie Beaudoin, de la ligne de défense des républicains? Il y a encore des républicains fidèles, des proches de Donald Trump.
Alors, comment on essaie d'attaquer justement la crédibilité de quelqu'un comme ça? C'était assez difficile. Alors, ce qu'on disait, c'est que premièrement, elle n'avait pas d'affaires là parce qu'elle n'était pas en poste en Ukraine quand il y a eu le fameux appel. Alors, on a voulu discréditer la campagne de salissage qu'on dit des démocrates en mentionnant, entre autres, qu'Adam Schiff, bien sûr, était en vendetta contre le président. Et il y a William Barr, qui est le procureur général des États-Unis, qui a rajouté un petit peu son grain de sel en disant qu'on était presque dans l'illégalité parce que les démocrates, ce qu'ils faisaient en ce moment, c'était pour influencer un vote. Alors, c'était vraiment dans le but d'influencer les électeurs américains alors qu'on était au-delà de vraiment l'impeachment.
Et je le disais, Valérie, on ne sait jamais à quoi s'attendre maintenant d'une journée à l'autre, mais que nous réserve la semaine prochaine?
Alors, mercredi, mettez ça à l'agenda, Gordon Sondland, c'est l'ancien l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, et lui aurait entendu Donald Trump lui dire que finalement, l'enquête qui lui importe, c'est celle sur le fils de Joe Biden et qu'il n'en avait un peu rien à faire des Ukrainiens et de la corruption. C'est vraiment ce qui l'intéressait. C'était ça. Alors, s'il le dit devant public, ça va quand même nuire au président, surtout que c'était une nomination extrêmement partisane de Donald Trump.
Et parlant de nomination, un autre proche de Donald Trump a été reconnu coupable, Roger Stone.
Ben oui, alors Roger Stone, vous avez sûrement déjà entendu le nom ou vu le documentaire Get Me Roger Stone sur Netflix. Roger Stone, un dirty trickster, c'est comme ça qu'il se dit. Des coups bas, il est capable d'en faire, il est capable de mentir. Et lui, il y avait 7 chefs d'accusation liés à l'enquête sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016. Il a été reconnu coupable. Il dit qu'il n'hésite pas à déformer la vérité. Et lui, on l'accuse, entre autres, d'avoir menti au Congrès. C'est quelqu'un qui était très, très près de Julian Assange et vraiment qui est en contact pour que les fameux courriels découverts par Wikileaks puissent profiter à la campagne du président.
Et là, la grande question, est-ce qu'il sera pardonné par le président? Parce que n'oublions pas, il est arrivé une autre chose grave. Vendredi, le président est intervenu directement dans un procès pour crime de guerre. Il a donné l'absolution à 2 soldats qui étaient en plein procès.
Oui.
Malgré les mises en garde de son secrétaire à la Défense et du Pentagone en disant « Monsieur le Président, ça se fait pas. Vous ne pouvez pas intervenir dans un procès militaire où 3 personnes sont jugées pour crime de guerre. » Donc, il a accordé 2 pardons et il a réinstauré le grade d'un Navy SEAL directement, sans passer par personne d'autre que lui-même.
Alors, imaginez ce qu'il pourrait faire pour Roger Stone, qui était son proche conseiller depuis des années. Est-ce qu'il va lui accorder un pardon présidentiel? Parce qu'il dit que si les gens allaient tous en prison pour avoir menti, Hillary Clinton irait, James Comey du FBI aussi serait en prison. Et je peux vous dire que pour avoir menti, il y a beaucoup de gens à Washington qui seraient en prison. Si on y va avec des lignes de pensée.
Oui. Il manquerait de place.
Voilà, vous avez tout compris.
Comment avez-vous aimé votre soirée, Valérie Beaudoin, votre soirée en compagnie de Barack Obama?
Oui, Barack Obama qui était au Centre Bell cette semaine. Je vous dirais qu'il y a surtout un grand contraste et je pense que c'est pour ça que les gens payent assez cher pour aller voir le président américain parce que quand on a quelqu'un comme Donald Trump à Washington, c'est pas ce qu'on aime. On veut entendre Barack Obama, mais pour les gens qui s'attendaient à de grandes révélations, qui allaient parler de la campagne en cours ou qui allaient parler du président américain, ils ont été déçus. Je vous dirais qu'on faisait un petit peu plus appel à l'intellectuel Barack Obama pour parler du domaine des affaires, d'intelligence artificielle, changement climatique. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau sur le président? Non.
Mais il a dit une chose importante, c'est qu'il aurait dû venir en juillet plutôt qu'en novembre, à Montréal.
Et il a parlé de la circulation et du fait que c'était difficile de se rendre et qui, d'ailleurs, il s'est dit...
Ça, c'est bien quand même.
Oui, j'ai dit, je me demande si ici, si on a entendu à Montréal, mais il a dit ce qui me manque à la Maison-Blanche, c'est pas tout le protocole et tout ça, c'est Marine One, justement, son hélicoptère pour pouvoir se déplacer. C'est éviter tous ces bouchons.
Il a dit qu'il avait beaucoup de temps et que ses filles étaient parties et ses filles ne répondent pas à ses courriels.
Non.
Et j'ai un message pour Barack Obama. Évidemment, il est plus jeune que moi, mais c'est très frustrant pour des parents, futurs grands-parents, dans le cas de Barack Obama, sans aucun doute, quand tu vois que tes enfants ne répondent pas à tes courriels.
Oui, alors je pense que le syndrome du nid vide lui fait quelque chose. Exactement, tout à fait.
Après tout ce qu'il a fait pour eux, pour ses filles.
On va les faire sentir coupables.
Alors, on termine avec les démocrates.
Oui.
Les démocrates. Véritable saga, le téléroman. Ils sont encore plusieurs à espérer obtenir l'investiture pour affronter Donald Trump à l'élection de novembre, dans un an. Et cette semaine, il y a un débat très important.
Oui, tout à fait. Alors, il y a 10 candidats le 20 novembre prochain qui vont se présenter. C'est un débat qui est à Atlanta. Et je vous dirais, bien sûr, il y a Joe Biden, il y a Kamala Harris, des gros noms comme Elizabeth Warren. Mais la personne à surveiller, et dans ce débat-là, ça va être Pete Buttigieg, Mayor Pete, comme on l'appelle, le maire de South Bend en Indiana, qui est premier en Iowa, qui est vraiment le premier État à voter pour leur candidat démocrate.
Grosse surprise.
Quand même un État baromètre. Alors, je pense que lui...
Peut-on élire un président avec un nom semblable?
On va l'appeler President Pete? Mayor Pete?
Non, mais j'entends son nom prononcé de toutes les façons. La bonne façon, c'est Buttigieg.
Oui, ben Buttigieg. on pourrait faire un débat là-dessus après le débat sur
Alors que Trump, c'est tellement facile.
Oui.
Trump!
Ben c'est ça. Alors peut-être que les gens vont préférer avoir quelque chose de plus facile à prononcer, mais chose certaine, on va voir si lui va se faire attaquer comme Mme Warren s'est fait attaquer au dernier débat.
Ça alors Valérie, vous avez beaucoup de travail encore cette semaine, mais c'est passionnant. Merci beaucoup.
Avec plaisir.